Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Chroniques du Pays d'Arrêt d'Histoire, animée par le Pays d'Arrêt d'Histoire Midi-Quercy. Je m'appelle Aude Caverzan, je suis la chargée de mission de ce Pays d'Arrêt d'Histoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette cinquième chronique pour parler de deux journées consacrées à la thématique de l'eau qui se tiendront les samedis 20 et dimanche 21 juillet 2024 à la Bastide de Peine et auxquelles le Pays d'Arrêt d'Histoire collabore. Ces deux journées seront une occasion rare de réfléchir et échanger sur le thème de l'eau. L'eau est tellement omniprésente dans nos vies que l'on a tendance à penser que c'est quelque chose qu'on connaît très bien, alors qu'en fait c'est un sujet plutôt méconnu. Toutes ces réflexions qui se tiendront le 20-21 juillet à la Bastide de Peine, nous vous les partageons ici dans cette émission. Alors, au fil de l'émission, plusieurs personnes interviendront pour discuter d'un des aspects de l'eau. Pour commencer, peut-être Muriel, je suis en présence de Muriel Lardo, pardon, qui a créé l'association Consol à la Bastide de Peine. Et c'est cette association Consol qui a organisé donc toutes ces deux journées sur l'eau à la Bastide de Peine. Et donc Muriel Lardo, finalement, qui en est la présidente, est aussi un petit peu la grande organisatrice de ces deux journées, j'ai envie de dire la chef d'orchestre. Donc pour commencer, Muriel, peut-être pouvez-vous vous présenter vous déjà et nous expliquer comment ce projet des deux journées sur l'eau est né.
Oui, d'accord. Ben, bonjour et merci Aude. Donc nous avons choisi, mon mari et moi, de nous installer dans le sud-ouest et puis de continuer à organiser des événements culturels. J'étais programmatrice au musée du Quai Branly et en parallèle, nous organisions ensemble des expositions et des concerts dans notre sous-sol. Nous avons eu la chance de trouver une maison avec une grande grange et plusieurs chambres pour pouvoir accueillir des artistes à la Bastide de Peine. Alors nous avons créé cette association Consol avec pour objectif d'offrir la possibilité à des artistes, des musiciens, des plasticiens, des comédiens de se produire en pleine nature ou dans cette grande grange que nous avons aménagée et leur permettre de répondre à des propositions précises de notre part. Nous souhaitons également encourager le croisement des disciplines, musique, littérature, arts plastiques, mais aussi le croisement des arts et des sciences humaines et sociales. Je bénéficie, il faut dire, d'un réseau d'artistes et de chercheurs que j'ai connu lors de mon métier au musée du Quai Branly, que je souhaiterais faire se rencontrer avec les artistes de la région. Alors, nous avons organisé une soirée l'été dernier, un concert de jazz qui a accueilli près de 70 personnes. J'avais contacté des écoles de musique, des mairies, des associations, des acteurs culturels et notamment Gian Giatti qui m'a proposé qui m'a proposé de choisir le thème de l'eau pour notre prochain événement. Et ça m'intéressait beaucoup, ce sujet m'intéressait beaucoup. En plus, il m'a permis de rencontrer, grâce à Gian, Sabine Martin, qui est ici avec nous, et Marion Albert, qui est également ici, voilà, et qui vont vous parler tout à l'heure de ce qu'elles vont faire dans le cadre de ces deux journées, et qui m'ont énormément aidée pour inviter des intervenants, et puis, pour moi, qui ne connaissais pas grand-chose à l'eau, j'ai appris énormément de choses, voilà.
Quel est l'objectif finalement, ou quels sont les objectifs de ces deux journées et comment tout le programme que tu as pu élaborer pour ces deux journées y répond en fait.
Alors l'idée c'était comme tu l'as dit tout à l'heure, on a toujours un peu les mêmes idées sur l'eau, on ne sait pas grand chose de vraiment, réellement. Donc l'idée c'était de sensibiliser à ces questions, ces problèmes, la fragilité de l'eau, sa valeur, et puis d'informer. Donc, on a voulu aussi que le public puisse interagir, qu'il y ait des discussions, des questions. Et on voulait faire quelque chose à la fois scientifique et culturel pour permettre aux gens qui ne sont pas forcément intéressés par les problèmes sérieux ou graves, de les sensibiliser avec une approche transversale, avec des voix complémentaires, Et puis pour parler des enjeux qui sont propres à notre territoire. Donc des artistes, des anthropologues, des musiciens qui vont pouvoir en parler. Alors en plus de ça, on va faire une grosse découverte. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent un endroit absolument fabuleux à la Bastide de Peine. C'est une zone humide qui est traversée par un cours d'eau. Et ce cours d'eau a eu la chance d'être reméandré. Donc ça, c'est tout à l'heure, on va vous en parler plus longuement. C'est Sabine Martin qui va vous en parler. Et puis, donc, il y aura aussi une lecture musicale et puis une projection. Voilà, je ne vais pas vous dérouler tout le programme, ça serait un peu fastidieux. Mais l'idée, c'est de pouvoir, grâce à une exposition également, puisque nous avons demandé aux habitants du territoire d'apporter un objet en lien avec l'eau, ancien ou contemporain, qui a une histoire. Et voilà, ce sera l'occasion d'aborder d'autres sujets liés à l'eau.
Alors, un très beau programme en perspective avec des tables rondes, projections, entretiens, lectures musicales, ateliers, concerts. Voilà, tout plein de choses durant ces deux journées. On va reparler de certains de ces activités, en fait, plus en détail ici. Comme tu le disais, Muriel, ce sont deux journées qui vont interroger plusieurs facettes de l'eau. Donc on va commencer peut-être par une facette plutôt, j'ai envie de dire, scientifique, même si c'est un peu simplifié, mais ce qui va vraiment s'emparer du sujet de l'eau avec une approche scientifique, ça va être la table ronde qui sera animée par Sabine Martin, présente avec moi ici. Bonjour Sabine.
Et bonjour tout le monde. Voilà, donc moi je suis Sabine Martin, je suis de Saint-Étienne-de-Tulmont, où j'ai été élue de 2001 à 2014. En 2014, j'ai été nommée au comité de bassin à Dour-Garonne. Et l'expérience en comité de bassin m'a convaincue que la gestion de l'eau ne se fait pas dans les comités de bassin, mais par et dans les territoires. Donc à la fin de mon mandat au comité de bassin en 2020, par mon attachement au pays Midi-Quercy, j'ai souhaité servir en fait le territoire et ses élus dans leur gestion de l'eau et des milieux aquatiques et dans la prévention des inondations. Et pour ce faire, j'ai tout naturellement rejoint le Conseil de développement du pays Midi-Quercy.
Voilà, merci Sabine pour t'être présentée. Tu as de nombreuses casquettes et donc tu connais très bien le sujet de l'eau. Donc c'est toi qui animera cette table ronde. Cette table ronde, ce sera l'occasion de confronter les réflexions de plusieurs spécialistes de la question de l'eau, notamment des techniciens rivières, et puis aussi et surtout, j'ai envie de dire, de créer un échange avec le public en fait. Et c'est aussi ça qui est très très important. Et elle a pour vocation non pas de parler de l'eau de manière générale, mais en l'ancrant à des problématiques locales du pays Midi-Quercy. Comme tu l'as très bien dit en te présentant, Sabine, tu es vraiment attachée au territoire, à la région via le pays Midi-Quercy. Donc en effet, là, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de pouvoir reconnecter avec le local. Et justement, ben, l'eau, c'est une problématique du pays d'arrêt d'histoire, hein, puisque c'est le thème fil rouge, c'est le thème qui nous sert de fil rouge, qui sert de fil rouge à nos animations depuis la création du label en 2022. Et puis d'autre part, le pays d'arrêt d'histoire est porté par le pôle d'équilibre territorial et rural, donc le PETR du pays Midi-Quercy, finalement, auquel tu contribues, Sabine, puisque tu fais partie du conseil de développement. Et dans toutes les actions de ce PETR, on prend en compte l'environnement dans un souci de transition écologique, mais une écologie qui est ramenée à l'échelle du territoire, encore une fois, qui est entrée dans le local afin qu'elle soit plus proche des habitants. Donc finalement, l'eau, c'est un sujet central dans les préoccupations à la fois du PETR Midi-Quercy et du pays d'arrêt d'histoire. Et ça sera la préoccupation aussi de l'ancrer dans le local lors de cette table ronde. Donc Sabine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui sera dans cette table ronde et puis nous en parler, introduire un petit peu le sujet ?
Oui, alors en fait, les élus locaux sont actuellement en charge totale de la gestion de l'eau, la ressource de l'eau brute, la potabilisation de l'eau distribuée et également la prévention des inondations. Cette compétence de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations oblige les élus à un aménagement du territoire qui prend en compte la gestion de la qualité et de la quantité de l'eau et de la prévention des inondations, et cela n'est pas ni facile ni simple. Et dans ce travail, les élus sont aidés par les techniciens rivières. Et lors de la réunion chez Muriel, il y aura Didier, il y aura Gauthier Aucoin du Quercy-Caussadet et Virginie Marais du Quercy-Vert-Aveyron qui viendront nous expliquer l'hydromorphologie, ce qui s'est fait sur le ruisseau qui se trouve en zone humide, qui se trouve donc tout près du lieu où nous nous rassemblons. Nous connaissons depuis peu le fonctionnement d'un sol et son rôle majeur dans la gestion de l'eau. On ne parle des sols vraiment que depuis 2016, lors de la restitution des 10 années consacrées à l'étude des sols, grâce à la microbiologie des sols, dans les programmes GESOL et JSOL, qui sont des programmes d'études et d'informations sur les sols. Aujourd'hui, parler des sols vivants, cela a du sens. Si le sol a été longtemps un trou noir, sale et difficile, il est aujourd'hui reconnu comme un lieu fourmillant de vie, le lieu de tous les échanges. En fait, les sols, c'est le lieu de tous les bouclages de cycles. Le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, cycle de l'air et bien sûr le cycle de l'eau et de l'eau verte durant la phase terrestre du cycle de l'eau. Au cours de la table ronde, nous expliquerons ce qu'est l'eau verte et ce qu'est l'eau bleue. Si je vous parle des sols avant de vous parler de l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau sans sol vivant, et plus encore, il n'y a pas de sol vivant sans eau, et pas de sol vivant sans couverture végétale. Par ailleurs, la vie du sol dépend massivement des vers de terre, qui sont des ingénieurs hydrauliciens hors pair, et qu'il leur faut des sols humifères pour pouvoir y vivre. Sans omettre de nommer les bactéries indispensables au recyclage et à la minéralisation des éléments minéraux apportés par les plantes. En fait, ce n'est pas l'eau qui mène la vie, c'est l'arbre. C'est là qu'on arrive à ce dont nous allons parler dans la table ronde, l'hydrologie régénérative. Parmi les différentes techniques de régénération des sols par l'eau, il y a ce qu'on appelle l'hydromorphologie.
Alors, qu'est-ce que l'hydromorphologie, Sabine ?
L'hydromorphologie, c'est le reméandrage des cours d'eau ruraux, ces cours d'eau qui ont été massivement rectifiés à partir des années 60 lors du remembrement. Le reméandrage va modifier la morphologie rectiligne du cours d'eau en créant des méandres, des bras morts, des zones humides. Cela va permettre de mieux répartir et augmenter les zones mouillées et aussi prolonger le temps de résidence de l'eau dans les sols, et ainsi agir sur l'atténuation des sécheresses, mais aussi des inondations. Et c'est de cela que nos deux techniciens rivières vont parler. Qui sait, parleront-ils également, d'une autre technique d'hydrologie régénérative, celle de se préparer au retour du castor, lui aussi un hydraulicien expert. On perçoit bien la complexité des enjeux et aussi combien l'eau, qui nous est si précieuse, dépend directement du maintien de la vie, de la préservation et de la diversité des milieux et des habitats et de la robustesse des écosystèmes. Car ce sont les écosystèmes qui sous-tendent la régulation de l'eau. Il ne faut pas oublier que sécheresse et inondation sont les deux faces d'une même médaille, qui sont les sols dégradés à faible activité biologique. Pour ma part, lors de la table ronde, j'expliquerai comment dans la nature, donc également dans les sols, chacun fait sa part. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant, car tout ce petit monde œuvre en convivialité pour le maintien d'un habitat viable, d'une cantine, d'une homéostasie climatique et du partage de l'eau. J'ajouterai une phase qui est de plus en plus prise en compte, c'est que les microbes, dans leur extrême diversité, assure les grands cycles vitaux de la planète, le CO2, le méthane, l'azote, entre autres. Les microbes produisent une grande partie de notre oxygène. Ils dépolluent la terre et les océans. Ils assurent des symbioses vitales pour notre monde animal et végétal. Voilà ce dont nous allons parler lors de la table ronde.
Une table ronde qui sera vraiment très très intéressante et toujours dans cette approche plutôt scientifique. Cette question de l'eau sera élargie lors d'un entretien avec Philippe Descola durant ces deux journées. Muriel, est-ce que tu peux expliquer qui est Philippe Descola et résumer de quoi il parlera durant son entretien ?
Oui, alors on a vraiment la grande chance d'avoir Philippe Descola, qui est un très grand anthropologue et qui est invité dans le monde entier à faire des conférences ou participer à des colloques. Et donc, je le présente en quelques mots, il occupe une chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France et il a vécu pendant 3 ans dans les années 70 chez les Indiens Achuar, anciennement Indiens Jivaro, pendant 3 ans. Et donc son enquête portait sur les relations entretenues par ce peuple animiste d'Amazonie avec son environnement. Et ce récit montre que ces Indiens, ces Amérindiens, considèrent les non-humains, animaux et végétaux, comme des personnes. C'est son grand apport en tant qu'anthropologue, c'est d'avoir expliqué que la nature n'existe pas. Il redéfinit les rapports entre les humains et le vivant, l'homme et la nature, c'est-à-dire la faune, la flore, ne font qu'un. Voilà, bon, je vous l'explique mal, mais il vous expliquera ça très très bien. Et j'oublie d'ajouter qu'il a écrit de nombreux livres, donc « Par-delà nature et culture », qui est vraiment un ouvrage de référence qui est traduit dans une dizaine de langues. Et puis plus récemment, là il y a « Les Lances du crépuscule » qui a été aussi un livre assez mythique et qui a été paru en 1993. Et dernièrement, en 2022, il a publié avec Alessandro Pignocchi, qui est à la fois anthropologue et dessinateur, il a écrit « Ethnographie des mondes à venir ». Voilà. Et donc, on aura la grande chance de l'avoir présent ce samedi 20 juillet.
Et oui, donc nous sommes partis loin de l'eau jusqu'à la notion de nature qui, si on écoute Philippe Descola, n'existe pas, mine de rien. Donc ensuite, pour continuer cette chronique, l'eau sera abordée durant ces deux journées selon une approche pas seulement scientifique, mais aussi artistique. Mais nous en parlerons juste après la pause musicale.
Un matin, un chemin, sur la rive, un bassin, la caresse des flots, et moi je saute à l'eau. Un matin, un chemin, sur la rive, un bassin, la caresse des flots, et moi je saute à l'eau. Je deviens amphibien, à 4 mains, je me sens bien, je suis loin, les poissons prennent pour un con. Oh, oh, oh. L'eau me dit, c'est la vie, en montant, plus d'habits. L'eau de pluie, je frémis, j'y retourne et j'y reviens. L'eau me dit, c'est la vie, en remontant, plus d'habits. L'eau de pluie, je frémis, j'y retourne et j'y reviens. J'y retourne et j'y reviens. J'y retourne et j'y
Nous sommes de retour dans l'émission Les Chroniques du Pays d'Arrêt d'Histoire, consacrée aux deux journées sur l'eau qui se tiendront le 20 et 21 juillet à la Bastide de Pennes. Alors, durant ces deux journées, nous souhaiterions que les différents intervenants ne se cantonnent pas à une approche scientifique de l'eau, mais qu'ils explorent aussi la dimension artistique de l'eau. Donc, on va se demander aussi que devient l'eau dans l'imaginaire des créateurs. L'eau a aussi beaucoup inspiré l'imaginaire de deux créateurs, Sarah Darmaillan et Flavien Ramel, qui ont créé l'association Le Souffle à l'Oreille. Et qui, donc, cette association propose plusieurs prestations artistiques, notamment des lectures musicales, comme celle que nous avons entendue lors de la pause musicale, justement. Alors, je suis en compagnie de Sarah, qui est avec moi aujourd'hui aussi. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'association Le Souffle à l'Oreille que tu as créée avec Flavien Ramel?
Oui, bah, c'est une compagnie donc de spectacle vivant et on s'est associé avec Flavien Ramel qui est musicien-compositeur qui lui compose ses chansons en français, a son solo de chansons en français. Et nous, on a décidé de s'inspirer beaucoup de littérature et de musique, de joindre les deux pour des spectacles. Et on a toute une partie, tout un volet de lecture musicale, effectivement, qu'on propose aussi en partenariat avec diverses institutions. Voilà.
Et donc vous avez créé des lectures musicales pour ces deux journées sur l'eau qui se tiendront à la Bastide de Peine. Dans quel contexte est-ce que vous avez, avec Flavien, conçu ces lectures musicales?
Oui, alors ça c'est dans le contexte d'un partenariat à la base avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. On a une petite formule qu'on aime bien où on s'associe à des conservateurs qui, dans une première partie, sur une thématique qu'on définit, en général, ça va être, par exemple, une exposition qui est programmée au musée. Ils vont proposer une conférence sur l'exposition, sur une thématique en particulier. Et nous, on va ouvrir et accompagner cette conférence avec une lecture musicale qui propose, donc à côté d'une approche assez scientifique, une approche poétique et littéraire sur un même sujet. On va dire pour imprégner un peu les gens physiquement et leur faire ressentir des émotions et qu'ils soient encore plus prêts à recevoir de la connaissance. Donc c'est une formule où on s'associe avec des conservateurs. Et dans ce contexte-là, on a rencontré Constance de Montbrison, qui elle avait fait une exposition sur les territoires de l'eau. C'était la fondation de l'eau François Schneider, en partenariat avec le musée du Quai Branly, et à cette occasion, on lui a proposé, nous, de faire une lecture musicale sur l'eau. Voilà, donc quand Muriel Lardot nous a contactés sur cette thématique de l'eau, évidemment, là, on s'est dit, tiens, on va pousser un petit peu plus loin ce travail sur la conférence et la lecture musicale mélangée, et on est très heureux de participer à cet événement. Voilà.
D'accord. Et quel texte avez-vous choisi pour ces lectures? Quels auteurs? Enfin, comment vous choisissez vos auteurs?
Dans une première partie, quand on a une thématique, moi je me réfugie en général dans les librairies, dans les bibliothèques. On essaye de voir qui sort un peu sur la littérature contemporaine. Et puis après, ce qu'on aime bien, c'est croiser différentes disciplines. Il y a tout un échantillonnage de textes qui permet d'aller chercher du côté de la philosophie, de l'anthropologie et de la littérature et de mêler tout ça. Donc là, on a et puis des textes aussi qui sont un peu plus anciens et contemporains. C'est vraiment le mélange de tout ça qui nous intéresse. Donc là, on est parti, évidemment, à la base, il y a Élisée Reclus qui a quand même beaucoup écrit sur l'eau, mais ça, on a essayé d'en prendre juste une toute petite partie. Et ensuite, de remonter jusqu'aujourd'hui à des auteurs plus contemporains, du côté de l'anthropologie et de la philosophie. Il y a quelqu'un comme Mathieu Dupérex qui travaille beaucoup sur ce sujet, qui a écrit « Voyage en sol incertain » et qui lui-même a des textes qui sont un peu faits pour être mis en musique, qui met lui-même en musique ses textes, qui nous avait donné son autorisation pour les lire aussi. Et qu'il y a tout un travail sur les bayous en Camargue, les bayous en Louisiane. C'est assez rythmique comme texte. Et là, on penche plutôt sur quelque chose de très contemporain, d'anthropologique un peu. Et puis ensuite, un autre texte qui nous a beaucoup inspiré, c'est dans la littérature. C'est chez POM que c'était publié. C'est Emmanuel Pagano qui a écrit une trilogie des rives. Alors là, on est vraiment dans du poétique. Et la trilogie des rives, il y a 3 tomes. Et elle remonte en fait l'histoire de sa famille à travers l'histoire d'un cours d'eau, ensuite d'un fleuve, et pour élargir ensuite à des histoires d'océans, de glaciers. Voilà, et c'est vraiment une très belle écriture qui est très poétique, qui va chercher jusque dans la mythologie un peu populaire sur l'eau. C'est très délicat comme écriture et ça nous a beaucoup inspiré sur cette lecture. Voilà, le choix des textes.
Dernière question, comment travaillez-vous avec comment est-ce que tu travailles, Sarah, avec le musicien Flavien Ramel? Comment est-ce que vous mettez en place les lectures musicales ensemble?
Ah ben là, ce qui est super chouette avec Flavien, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps, on travaille ensemble depuis 10 ans, voire même un peu plus, et donc aujourd'hui on habite à distance, il y a toute une première partie où moi je vais faire les recherches de textes, on va s'inspirer. Je vais lui envoyer plein de d'ébauches, de textes, de découpages. Et en général, quand on se retrouve, ensuite, on a quelques jours pour travailler. Et lui, il arrive chargé de tous ses textes. Et en général, il va tout de suite travailler. Il va tout de suite trouver quelques inspirations. Il réfléchit à quel instrument il va choisir. Donc ça, c'est la thématique qui impose souvent tout un choix d'instrument parce que il est multi-instrumentiste, percussionniste à la base, mais voilà, aujourd'hui, il joue de nombreux instruments, donc il va y avoir vraiment ce moment de choix de quels instruments on va pouvoir coller à la lecture. Et ensuite, c'est en se retrouvant que souvent, moi, je suis assez silencieuse pendant les répétitions. On va commencer à lire un texte et ensuite, il va ouvrir sur des compositions. Il compose en général en direct avec moi, en face de moi. Et c'est vrai qu'on a une confiance réciproque, une admiration aussi un peu réciproque qui fait que ça va assez vite. Et voilà, qu'on a l'habitude. Et ensuite, lui, va souvent, on fait de plus en plus de chansons ensemble. Donc, c'est Flavien qui les compose, qui arrive souvent avec un petit air musical qu'il a déjà en tête, qu'il a réfléchi en amont dans son quotidien, en faisant la vaisselle, en faisant le vélo, en faisant du vélo, enfin, toutes ces petites choses où ça travaille tout seul un peu. Et quand on se retrouve, il va sortir un petit air, souvent. Et on va essayer ensemble de trouver des paroles et de créer quelques chansons. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas, ça répond bien à la question, mais je crois qu'on a, on a cette façon de travailler ensemble assez efficace et dans beaucoup de confiance, en tout cas.
C'est parfait. Ouais. Et je me demandais juste, en lien avec l'eau, c'est ce qu'on peut savoir, quels instruments ont été choisis?
Ah, bah là, on est encore en travail, mais... il va y avoir de la guitare et puis beaucoup de petites percussions, de petits instruments évidemment, de coquillages. La calebasse aussi, un peu aussi. Et puis on n'a pas totalement déterminé encore tout ça, puisque c'est pas tout de suite et on est encore en travail.
Suspense.
Et on arrive avec différents instruments, effectivement.
D'accord, bon, ça sera la découverte alors durant ces 2 journées sur l'eau à la Bastide de Pennes, le 20-21 juillet.
Bah ouais, je voulais vraiment remercier Muriel de nous inviter, c'est un vrai plaisir de venir et de partager ces moments poétiques.
D'accord, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cet imaginaire des créateurs sera aussi présenté à travers l'exposition Les Territoires de l'eau, puisqu'il s'agira de projeter des objets des 4 continents et des œuvres d'art d'artistes contemporains, tous liés à l'eau. Donc, Muriel Lardo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette exposition?
Alors, cette exposition, donc, comme le disait Sarah tout à l'heure, elle a eu lieu à la Fondation François Schneider, c'est une fondation qui est consacrée à l'eau dans les Vosges. Et donc, Constance de Montbrison, qui a été commissaire de cette exposition, projettera de nombreux objets et des œuvres d'artistes contemporains, des nasses tressées d'Océanie, des peintures aborigènes d'Australie, des méduses en verre soufflé, une poterie des Amérindiens zapothèques. Et ce sera l'idée, c'est de montrer que l'eau est centrale dans toutes les cultures à travers le monde, que l'eau est un espace social, un objet de croyance et de rituel, un territoire géographique, un outil technique. L'eau est de tout temps au cœur de la vie des hommes et aussi bien dans son quotidien que dans son imaginaire. C'était dans le catalogue de l'exposition, cette belle phrase.
Enfin, pour finir ce tour d'horizon de la thématique de l'eau, nous allons parler d'une approche qui est à l'intersection du scientifique et de l'artistique. C'est celle de Marion Albert, qui présente avec nous aussi ici. Bonjour Marion.
Bonjour.
Donc Marion Albert est une artiste chercheuse qui nous ramène après ses voyages lointains sur les terres du pays Midi Quercy. Elle présentera une conférence. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence?
Oui, bien sûr. En fait, je mène des recherches au croisement entre les sciences naturelles et les sciences sociales sur la perception et la considération des milieux aquatiques. Et ça fait maintenant 3 ans que je m'intéresse au pays Midi Quercy, qui, avec ses 49 communes, chacune a sa manière et sa localisation et sa singularité hydrogéologique, a dû s'adapter à la présence ou à l'accès à l'eau. Et en fait, j'essaye de faire, et c'est ça que je présenterai le 21 juillet, essayer de faire un peu des allers-retours entre les histoires, entre les paysages, pour essayer d'apprendre aujourd'hui sur nos manières d'habiter, sur nos modes d'existence. Et dans ce sujet-là de la perception, en fait, j'essaye de restaurer, ou en tout cas de corriger, la perception qui domine parfois de l'eau comme une ressource ou seulement comme un flux, ce qui est pire, et essayer de raconter d'autres histoires d'eau que... Seulement celles que l'on voit en général, du pas assez d'eau l'été, sécheresse, les sécheresses, ou du trop d'eau quand il y a des inondations. Et essayer de raconter un petit peu tout ce qui se passe dans nos paysages entre ces deux moments-là un peu de catastrophe. Et voilà, et donc j'essaierai de tisser ces histoires-là avec des anecdotes précises et situées sur le territoire.
C'était une émission sur les 2 journées de la Bastide de Peine qui se dérouleront le 20-21 juillet. Donc merci à toutes pour votre intervention. Donc pour avoir plus d'informations sur ces 2 journées, ça sera, il faut poser la question par mail à assoconsole@gmail.com ou sur la page Facebook de l'association Console. Alors c'était les chroniques du Pays d'Arrêt d'Histoire, une émission présentée par le Pays d'Arrêt d'Histoire du PETR du Pays Midi Quercy et financée par les fonds européens Leader, à écouter en podcast sur le site de CFM Radio. Au revoir et on se retrouve à la Bastide de Peine.
Au revoir.